Le huitième soleil, par Richard Keller, chapitre 25. Le rapport d'autopsie se trouvait entre les mains du commandant Litchi. Luigi Antonioni, directeur de la sécurité de la région de Vénétie, le commissaire Gennaro Biazzini, patron des polices de Venise, ainsi que les deux gendarmes français, l'avaient rejoint dans son bureau. Tout ce beau monde analysa chaque terme du document avec minutie. Le compte-rendu du médecin légiste s'étendait sur un double feuillet. Le moindre détail y était consigné. Ces hommes, rompus aux crimes les plus atroces et parfois les plus insolites, manifestèrent une certaine surprise à la lecture de certains paragraphes rédigés par le spécialiste post-mortem. L'expertise précisait que la rupture de deux vertèbres cervicales avait provoqué le décès et la mort avait été instantanée. La jeune femme avait succombé quelques instants avant de se balancer au bout du filin. Les policiers refirent dans leur tête les gestes de l'assassin. Ils en conclurent qu'il avait enchaîné très rapidement l'exécution et l'installation de la victime sur le câble. Cette dernière avait absorbé une quantité importante de champagne et pris de la cocaïne. Le commandant Litchi, qui lisait à haute voix pour ses confrères et supérieurs, se hasarda à un commentaire. Sa surprise ne provenait pas de cette révélation. Un grand nombre de personnes de cette génération consommaient des drogues et les doses variaient selon le milieu du consommateur. Par ailleurs, la Colombine n'avait subi aucune violence sexuelle. Cependant, son étonnement résidait dans la découverte de deux boules de geisha dans le vagin de la jeune femme. Ses collègues, stupéfaits par cette découverte, estimèrent que cet élément apportait un éclairage nouveau à l'affaire. Une photo était jointe au rapport et chacun put voir deux boules rouges, de la grosseur d'une bille de flipper, reliées par un cordon et posées à côté du string blanc de la victime. Les enquêteurs, interloqués, se regardèrent. Certains ne connaissaient pas cet accessoire sexuel. Litchi, plus documenté que ses confrères, fournit des précisions sur l'usage qu'en faisaient les courtisanes japonaises. Contrairement à une idée répandue, les hommes les introduisaient dans leur propre anus. Le déplacement des billes à l'intérieur des sphères provoquait une excitation et une sensation au niveau de la prostate. Les Italiens ne se privèrent pas d'ajouter des commentaires imagés. Les boules de geisha exacerbaient les fantasmes masculins. Depuis, elles étaient devenues des gadgets féminins et leur utilisation ne se cantonnait pas à un seul orifice. Tous les usages pouvaient être envisagés. L'enquête prenait un tournant imprévu. Cette information modifiait l'approche du crime, car il ne s'agissait plus d'un incident d'ordre touristique. Les policiers italiens décidèrent d'orienter leurs investigations vers le monde de la nuit et surtout celui de la prostitution de luxe. Sagol et Gilles adhéraient à ce raisonnement, mais leur prudence légendaire leur soufflait de ne pas abandonner les autres pistes. La vérité pouvait se cacher derrière des apparences ou un mensonge insoupçonnable. Il convenait de se méfier des évidences. Les call girls ciblaient une clientèle huppée et l'inconnu du campanile pouvait appartenir à un réseau sévissant à Venise pendant la période du carnaval. Sagol et Gilles cogitaient depuis un moment, et, pour eux, ce scénario ne collait pas. Les prostituées de luxe ne se promenaient pas dans la cité des Doges avec des boules de geisha dans le bas-ventre. La rue ne constituait pas leur terrain de chasse. Ce genre de service était tarifé et pratiqué dans les palaces. À l'évidence, il s'agissait d'autre chose. Les deux gendarmes ne voulaient pas froisser leurs homologues et ils choisirent le moment opportun pour leur faire part de leurs hypothèses. Les Italiens décidèrent de faire un tour de table pour confronter les divers points de vue. Gilles s'exprima le premier. Au fil des années, il avait pris de l'assurance. Il abonda longuement dans le sens de ses amis transalpins et, en bon diplomate, il se permit d'émettre un avis plus personnel. Il disséqua chaque thèse et mit en parallèle l'argument le plus favorable et l'objection la plus pertinente. Il voulait amener ses auditeurs à son avis sans vexer quiconque. Ce diable d'homme fit mouche lorsqu'il aborda la perspective d'une organisation structurée. Le jouet des courtisanes japonaises posait problème. Une call girl s'amusant ainsi en plein carnaval paraissait peu probable, et tous en convinrent. Il restait à comprendre pour quelle raison la mort avait surpris la coquine colombine en haut du campanile. Gilles passa le relais à son ami Sagol, qui embraya sur les proxénètes originaires des anciens États du bloc soviétique. Il rejeta lui aussi cette supposition, en expliquant que les méthodes mafieuses de ces individus se révélaient plus cruelles. Les tortures qu'ils infligeaient s'inspiraient des triades chinoises, mais sans ces raffinements. Le chantage aux enfants restés au pays demeurait la première arme dissuasive. Cependant, elle était rapidement relayée par une élimination radicale perpétrée selon une mise en scène digne des pires films d'horreur, afin de terroriser les autres filles. L'empathie n'effleurait même pas ces barbares, alors que l'exécuteur de l'inconnu du campanile avait fait preuve d'un certain romantisme. La coopération se trouva renforcée après l'intervention remarquée des deux gendarmes. Leur esprit d'analyse, de synthèse, et leurs propositions séduisirent leurs collègues transalpins. Les deux hommes venaient de gagner l'estime et l'amitié des responsables vénitiens. Désormais, ils travailleraient main dans la main.